Voilà, je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. Une première lecture qui va nous montrer ce qu'un ange nous dit à propos de la naissance même de Jésus. Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » La naissance même de Jésus, c'est un vrai sujet de joie. Et quand on ne l'a pas vécu, c'est difficile à comprendre. C'est un peu un concept qu'on a du mal à cerner. Il faut le vivre. Il faut le vivre vraiment. Jean chapitre 3, verset 5. La naissance de Jésus, je vais faire une petite comparaison entre la naissance de Jésus et celle de Jésus dans notre cœur. Vous allez voir qu'il y a des petits parallèles qu'on peut faire qui sont intéressants, mais surtout ce que j'aimerais qu'on puisse réaliser cet après-midi, c'est quelle joie accompagne celui, celle qui passe par cette expérience. Et il y a une vraie joie qu'on ne peut pas comprendre quand on ne l'a pas vécu. Et ici, Jésus lui-même nous parle de la nécessité de cette deuxième naissance. Au verset 5, Jésus dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ici, Jésus parle bien de deux naissances différentes. Il parle de la naissance d'eau. La naissance d'eau, c'est la naissance naturelle. C'est mon interprétation. La petite graine qui se retrouve dans le ventre de maman, au début, c'est un peu un poisson. La naissance d'eau. Et ensuite, il y a une autre naissance qui est celle de l'esprit. On a tous un esprit. Un esprit, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas comme les animaux. Il suffit de constater ce que font pas les animaux, il y a plutôt ça, ce qu'ils font, plutôt ce qu'ils ne font pas, que nous faisons, pour voir qu'il y a quand même une différence entre ce que nous sommes et ce qu'un animal fait. Un animal est. Nous, on raisonne. Les animaux ne se regroupent pas pour débattre d'un sujet. Un animal, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche sa nourriture et il cherche à se reproduire, point barre. Nous, ça va un peu plus loin que ça. Pourquoi? Parce que nous avons en nous quelque chose qui est l'esprit, cet esprit-là. Le problème, c'est que cet esprit-là, on va le voir, eh bien, en l'état actuel, à notre naissance, ne peut pas bénéficier de cette naissance. Il est mort. Il est comme mort. C'est vrai que les gens qui ne connaissent pas Dieu réfléchissent quand même et peuvent raisonner, mais il y a quelque chose en lui qui l'empêche d'entrer dans une vraie dimension de vie. Ici, il y a une annonce. Nous avons lu cette annonce des anges à des bergers qui parlent de la naissance de Jésus. Et comme le dit l'ange, c'est le sujet d'une grande joie. Mais on peut même imaginer la grande joie qu'a reçue Marie et Joseph quand on leur a annoncé qu'ils allaient avoir un petit bébé. Et on peut aussi, on va en parler rapidement, mais quand nous sommes parents et qu'on nous annonce, quand il y a le petit test qui nous dit « Hé, il y a un petit bébé qui arrive », il y a une grande joie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a une grande joie. Parce qu'on va vivre des choses extraordinaires. Et quand on ne l'a pas vécu, c'est pareil, c'est difficile de l'expliquer. Seulement, pour qu'il y ait naissance, on comprend bien qu'il faut qu'avant, il y ait une rencontre. S'il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas la naissance. Ce n'est pas possible. Une naissance classique, c'est quoi? C'est la rencontre d'un papa, d'une maman. Ils vont apprendre à se connaître. Et au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils vont s'aimer l'un et l'autre. Et dans l'engagement d'amour, dans un engagement d'amour, ils vont passer par le mariage. Et ensuite, ben, des enfants peuvent arriver. Et il y a cet ordre-là qui est établi. Mais sans la rencontre des parents, comment une naissance peut-elle se produire? Ce n'est pas possible. Avec Dieu, avec cette naissance-là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. S'il n'y a pas une rencontre avec celui qui permettra la naissance d'en haut, elle vient d'en haut, cette naissance. Donc il faut bien rencontrer la personne qui rendra cette naissance-là possible. S'il n'y a pas cette rencontre, il n'y aura jamais cette nouvelle naissance. Alors Nicodème a posé cette question à Jésus. Comment cette naissance peut-il arriver? Comment elle peut arriver? On peut lire les quelques passages, c'est au verset 14. Et Jésus répond, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On pourrait juste poursuivre, on revient d'une page, Jean 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la graine qui est semée dans notre cœur. » Jésus en parle, il compare la parole à une graine qui est plantée dans la terre de notre cœur. Et cette graine germe, et il pousse une plante. Et ici, à tous ceux qui l'ont reçu, cette graine qui va donner la vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, donc il est hors de question de comparer ça à une naissance naturelle, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette nouvelle naissance, c'est une naissance qui peut avoir lieu suite à avoir reçu la parole de Dieu dans notre cœur, et à ceux et celles qui y croient, eh bien, ils peuvent expérimenter cette nouvelle naissance. Le problème, c'est que cette rencontre-là, elle est impossible. Elle est impossible, cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a eu un différend. S'il y a une dispute dans le couple au moment des fiançailles, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de bébé. J'exagère le trait exprès pour faire vite. Mais c'est exactement la même situation. Nous avons un différend à régler avec Dieu. Et ce différend, s'il n'est pas réglé, la rencontre ne sera pas possible. Et il faut, pour que cette rencontre soit possible, que le différend soit réglé. Et ce différend-là, c'est quoi? C'est le fait que l'homme, un jour, a refusé justement cette rencontre. Dieu voulait, avait tout fait pour que cette rencontre soit possible, et au dernier moment, l'homme a tourné le dos à Dieu. L'homme a méprisé Dieu. L'homme a rejeté Dieu. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Et aujourd'hui, on peut voir malheureusement les conséquences de ce rejet de Dieu. Pourtant, Dieu avait tout fait, il avait même mis dans notre cœur les pensées de l'éternité. On a tous imaginé un jour, on s'est tous posé ces questions existentielles, malgré que nous n'ayons connu que des personnes qui sont nées et qui sont mortes. Nous n'avons connu que des choses qui n'ont pas de durée éternelle. Et pourtant, ces questions sur l'éternité sont bel et bien là dans notre cœur. Comment ça se fait? C'est impossible. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et Dieu avait tout fait pour que la rencontre soit possible. Et au moment où c'était possible, eh bien, l'homme a tourné le dos à Dieu. L'homme a rejeté Dieu. Et il s'en est trouvé malheureux. Et Dieu lui-même était malheureux de voir ainsi l'homme malheureux. Et c'est triste. Mais Dieu, qui aimait profondément l'homme, a trouvé une solution permettant la rencontre possible. Le psaume 14 nous résume dans les trois premiers versets justement cette attitude de cœur de l'homme. L'insensé dit en son cœur, celui qui n'a pas de sens, celui qui a perdu le sens, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà le constat de l'humanité aujourd'hui qui, alors que Dieu avait tout prévu, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et aujourd'hui, on voit facilement des situations et même des personnes. J'ai imaginé cette image d'un enfant harcelé à l'école par tout un tas d'enfants. C'est des choses courantes aujourd'hui, malheureusement. C'est triste à dire, mais ça arrive. Et j'imagine la conversation entre l'un des enfants qui embête le petit garçon et son père. Et le père lui demande comme ça, « Mais pourquoi toi aussi t'embêtes ce garçon ?» Et là, l'autre petit garçon de répondre, « Mais je sais pas, tout le monde le fait. » Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Sous prétexte que personne ne s'occupe de Dieu, que tout le monde rejette Dieu, que tout le monde préfère faire autre chose, on n'essaye même pas de réfléchir à l'intérieur, de savoir si oui ou non il existe, savoir si oui ou non c'est une réalité ou pas. Mais comme la plupart le rejettent, eh bien on se dit, ben, je vais faire comme tout le monde. Et c'est ainsi qu'on rejette Dieu sans même avoir réfléchi sincèrement à la question, est-ce qu'il est vivant, oui ou non ? Est-ce que c'est vrai ce que j'entends ? Oui ou non ? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier ? Eh bien, expérimente la nouvelle naissance. Cette expérience joyeuse, vraiment, une expérience joyeuse que Dieu te permet de donner. Comment c'est possible ? Mais parce que le Seigneur Jésus a pris notre punition en mourant sur la croix. Il a pris la condamnation. Jésus a été le médiateur entre les deux. Il a permis que la rencontre puisse se faire. Parce que lui a pris la punition, il a pris la condamnation, il a pris ma condamnation, il a pris ta condamnation, il est mort pour cela. Et la mort n'a pas pu le retenir. Aujourd'hui, il est vivant, il a donné sa vie, il est ressuscité. Et en croyant qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, alors je peux m'approcher de Dieu. La rencontre devient possible. Mais il faut recevoir ça comme étant quelque chose de réel. Il faut le recevoir. Croire, c'est recevoir. C'est recevoir cette parole, comme nous l'avons lu dans Jean. La parole qui a été donnée, il me faut la recevoir dans mon cœur. Quel est le résultat de cette rencontre ? David écrit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » La rencontre a eu lieu et Dieu a pu permettre ce grand moment de joie. Et c'est ainsi que tout à nouveau, cette parole de l'ange reprend toute sa dimension, un sujet de joie. Je vous annonce une bonne nouvelle parce que le Seigneur, le Sauveur, le Christ est né aujourd'hui. Et le jour où quelqu'un comprend ces choses et reçoit tout à nouveau justement cette parole que Dieu sème dans notre cœur, il y a cette affirmation qui résonne à chaque fois. C'est un grand sujet de joie. Il y a plus de bonheur pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, c'est écrit dans la parole. Mais ce n'est que le reflet de cette parole de l'ange qui exprime la joie qu'il y a quand il y a une naissance qui a lieu, une naissance intérieure où Jésus-Christ prend naissance quelque part en nous, où nous recevons la vie et la présence même. Je dirais du bébé spirituel qui est en train de naître en nous, c'est toute la joie qu'il y a dans le ciel et que nous allons expérimenter. Il y a une vraie joie dans cette expérience. Qui dit naissance, à quel moment la vie commence au fait ? C'est intéressant d'y réfléchir. Ça commence le jour de la naissance ? Ça commence bien avant. Et le jour où je reçois la parole de Dieu, je reçois la vie. Je reçois la vie, bien que je sois encore, entre guillemets, en gestation. Je suis encore en gestation. Mais avec cette gestation, on va faire un petit parallèle, vous allez voir, c'est assez intéressant. Eh bien, il y a des petits changements qui sont là, il y a des choses qu'on peut voir. Pas tout de suite, d'autres arrivent plus tard. Mais on ne peut que s'émerveiller de voir les choses se faire. Et on ne peut que s'émerveiller à l'attente du jour où il y aura la naissance effective. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit le Seigneur ? Quand on reçoit le Seigneur, eh bien, quand la vie commence, quand la vie intérieure commence, il y a une joie intérieure qu'on ne peut pas expliquer. Il y a une paix intérieure qu'on ne peut pas expliquer. Imaginez la jeune femme qui vient d'avoir la bonne nouvelle qu'elle est enceinte, c'est une explosion de joie. Et c'est pareil quand on reçoit le Seigneur Jésus dans son cœur. Il y a cette même explosion de joie. Et ici, eh bien, ça fait partie des choses qui sont là. Après, la grossesse commence. Et des fois, les femmes sont malades. Il y a des nausées. Et il y a un combat qui est là à l'intérieur. Parce que le corps refuse le petit corps étranger. Mais est-ce que ce n'est pas pareil dans la vie spirituelle ? Est-ce qu'il n'y a pas ce petit combat, du fait que ce grand combat même, du fait que la vie commence à l'intérieur, notre vieille nature, ça ne lui plaît pas trop au début. Et des fois, on en est malade aussi. On en est malade parce qu'il y a cette vie qui commence à prendre forme. Et finalement, eh bien, c'est un des signes qui nous montre que la vie a bel et bien commencé. Et il y a ce combat. Et en même temps, ce combat-là, il prouve quoi ? Que le bébé est bien là, que la vie est bien là, et qu'il se développe. Et c'est ainsi une assurance intérieure que nous avons quant à la nouvelle naissance qui se produit, qui est en train de se produire quelque part, même si c'est la gestation. Qu'est-ce qui se passe quand un couple entend cette merveilleuse nouvelle ? Vous allez avoir un bébé. C'est bien sûr la joie, je le redis. Mais les parents, quand ils reçoivent cette nouvelle, en plus de la joie, ça va commencer à réfléchir, à cogiter. Il va y avoir des choses qui vont changer dans la vie. Il y a tout un tas de choses qui changent. Comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, on est bouleversé. Et l'arrivée d'un bébé dans une famille, c'est un bouleversement. Et l'arrivée du Seigneur Jésus dans une vie, c'est aussi un bouleversement. Et ici, alors que les parents vivaient pour eux-mêmes, ils vont commencer à se dire, mais on va vivre pour le petit. Il arrive, on va lui préparer sa chambre. La voiture est trop petite, va falloir qu'on la change. La maison est trop petite, va peut-être falloir qu'on regarde ailleurs. Va falloir qu'on agrandisse ou qu'on change même. On est prêt à ces sacrifices. Mais la joie est tellement grande. La joie surpasse de loin les sacrifices. Parce que on le fait, c'est un plaisir tellement immense que d'accueillir ce petit enfant. Et ici, pour le chrétien, c'est pareil. Un chrétien qui reçoit Jésus dans son cœur, il n'a pas d'autre désir que de se consacrer tout naturellement à cette vie qui commence à l'intérieur. Et c'est une grande joie, je le répète, c'est une grande joie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Et il y a tout de suite dans le cœur ce désir de se consacrer à cette vie qu'il a à l'intérieur. C'est un joyeux chamboulement, un joyeux bouleversement. L'enfant, il n'est même pas né que les parents l'aiment déjà. La simple idée de la naissance réjouit le cœur des parents. L'enfant n'est même pas né que déjà les parents, ils ont commencé à tout chambouler dans leur vie. Ils ont commencé à tout préparer, tout organiser. Il y a déjà une consécration alors que l'enfant n'est pas arrivé encore. Et l'attente même, parce que là, il y a un temps qu'on ne peut pas réduire, cette attente-là, c'est même pas un problème. Et elle se vit dans la joie. Et elle permet même de mieux se préparer à l'arrivée. Ce temps d'attente qui permet de se préparer, de préparer l'arrivée de cette vie effective. Dans nos vies, nous qui sommes chrétiens, on n'imagine pas à quel point cette vie sur la terre nous prépare pour le jour où nous naîtrons, entre guillemets, dans le ciel. Nous sommes en gestation pour l'instant, parce que nous sommes dans ce corps. Mais avant la naissance, c'est intéressant de voir, voilà, je l'ai dit plus ou moins, les parents, ils commencent à préparer la chambre, etc. Madame commence à faire attention à ses habitudes alimentaires. Les parents parlent au bébé sans même le voir. Ça s'est déjà vu, moi je l'ai fait. Parler au ventre. Chanter au ventre. On ne l'a pas vu, l'enfant, pourtant. On ne l'a pas vu. Et pourtant, on est capable de chanter à un ventre. Les gens qui regardent de loin, ils pourraient dire, mais il a un problème. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui entend. Mais n'est-ce pas pareil, nous qui sommes chrétiens, qui prions quelqu'un que nous ne voyons pas, on chante à quelqu'un que nous ne voyons pas, mais on sait qu'il est là parce qu'on a expérimenté une vie intérieure. C'est une expérience qu'on ne peut pas décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais on le sait, c'est tout. On sait que ça va arriver. On sait qu'un jour viendra où nous serons dans le ciel auprès de Dieu et que nous naîtrons au royaume céleste pour de vrai, avec un nouveau corps. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il va dans le ciel nous préparer une place. Et oui, ça parle de la foi. On chante au gamin qui est dans le ventre pour qu'il s'habitue à notre voix. Mais nous, on fait pareil quand on parle au Seigneur. On fait pareil, exactement pareil, en attendant de le voir de nos yeux. Après, c'est intéressant de regarder ce qui se passe au fur et à mesure que cette vie prend de l'importance. Plus la grossesse se passe, et vous savez, quand vous parlez aux femmes, même le père bien sûr, mais la femme peut-être un peu plus, plus la date approche, et plus elle se dit vivement qu'il soit dehors. Mais pas dans le sens, j'en veux pas à l'intérieur, mais dans le sens d'être impatient. Parce qu'on pense au bébé qu'il va être, on lui a parlé, on a vécu des tas de choses, on l'a senti bouger, etc. On sait qu'un jour ça va arriver, mais plus le temps passe et plus on est impatient, plus on a hâte. Pour Christ, c'est pareil. Celui qui laisse Christ vivre en lui, qui le laisse se développer, un chrétien, plus il avance. Et plus il connaît cette vie intérieure que Dieu donne, et plus il se languit de le rencontrer vraiment. Et c'est une réalité. On attend tous ce jour avec impatience, parce que le Seigneur Jésus nous a promis qu'il reviendrait nous chercher. Le Seigneur nous a promis que même le jour où on devrait mourir, eh bien, ce n'est que justement le moment où on va changer. Et un chrétien n'a pas peur de la mort. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a expérimenté cette vie intérieure. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait que c'est le jour tant attendu. Mais on n'a pas le contrôle sur ce jour. On n'a pas le contrôle et on n'a pas à en prendre le contrôle. Ce jour-là, c'est Dieu qui le connaît. Et le jour où il décidera de nous faire naître dans l'autre monde, eh bien, ce sera la meilleure décision. Quand on voit la grossesse se faire, on voit que le corps de la femme change. Il commence à changer. Et plus on approche du terme, et plus le corps, je me rappelle, je revois ma femme pendant les nuits qui ne savait plus comment se mettre pour dormir, et plus ça prend de la place, et plus ça devient aussi insupportable. Plus Christ vit dans notre cœur, plus il prend de la place dans notre cœur, et plus notre vieille nature nous est insupportable. Et c'est un bon signe. C'est un très bon signe, parce que ça prouve que cette vie-là a pris toute sa place en nous. Quand madame est enceinte, des fois on voit le caractère qui change un peu. C'est pas toujours en bien, ça dépend. Mais quand Christ prend sa place dans notre cœur, quand la vie de Christ se développe en nous, notre caractère change aussi. Mais là, c'est en bien. Là, c'est en bien parce que la vie de Christ prend sa place et notre caractère s'en trouve changé. À partir du 5e mois, madame commence à sentir le bébé. Et nous, quand notre vie avec Jésus a commencé, qu'il a commencé à se développer un peu, eh bien, on fait des expériences de foi, des expériences qui nous permettent d'être encore plus assurés, quoi qu'il n'y avait pas de doute avant. Mais ces expériences-là nous affermissent encore plus sur le fait que la vie de Dieu est là en nous, que la vie de Dieu est là et se développe, et ces expériences nous fortifient, nous font du bien. les parents se régalent de mettre la main sur le ventre pour toucher les petits coups de pied que bébé peut faire en attendant. Pourquoi ? On attend tellement la naissance que le moindre petit coup de pied, ça fait du bien. Ça, c'est au début, parce qu'après, des fois, ça fait mal. Un peu plus tard, même le mari peut voir le bébé bouger sur le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Christ vit en moi, et que sa vie se développe en moi, même ceux de l'extérieur vont remarquer quelque chose. Vous savez, au début, au tout début, c'est invisible. Personne ne le sait. Il n'y a que la personne concernée qui sait que c'est arrivé. Même pas le mari le sait. Il n'y a que la femme qui le sait. Et au fur et à mesure que la vie prend sa place, ça devient difficile à cacher. Tout le monde le voit. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question. Est-ce que mon entourage voit la vie qui s'est développée en moi ? Est-ce que cette vie-là s'est développée en moi au point que je ne peux plus le cacher ? Ça doit se voir. Si ça ne se voit pas, il y a un problème. Et on est en droit de se poser la question, est-ce que oui ou non, cette vie-là, elle est dans mon cœur ? Et j'aimerais te dire que si tu n'as pas expérimenté ces choses, tu es peut-être passé à côté d'une chose merveilleuse qu'est la nouvelle naissance. Peut-être que tu t'es auto-persuadé parce que tu as fait l'expérience des textes, mais finalement tu as essayé de pratiquer ce que tu as lu là, dans la tête. Mais tu ne l'as pas vécu dans ton cœur. Cette joie-là, tu en entends parler, mais tu ne l'as jamais vécue. Cette paix-là, tu en entends parler, mais tu n'en as jamais vécu. Tu n'es jamais passé par là. Ce bonheur que de sentir la vie de Dieu en nous, eh oui, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se développe et ça se voit. Et si cette vie-là n'a pas pris sa place en moi, eh bien, je peux me poser certaines questions. Enfin, quand le ventre commencera à être gros, on sait que c'est imminent, la naissance. Et quelqu'un qui laisse ainsi transparaître la vie de Christ en lui, ça va interpeller. Et forcément, les gens viennent poser les questions. Souvent, quand le ventre n'est pas trop gros, ben, les conversations sont normales. Mais plus on approche du terme, et plus la question, elle vient. Alors, c'est pour bientôt ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est pour bientôt ? Et un chrétien qui laisse Christ vivre ainsi, il montre tellement de choses que finalement ça interpelle même les gens du dehors, ils viennent nous voir et disent « mais il y a quelque chose que tu as, que moi j'ai pas ». Et derrière, ça peut nous ouvrir les portes et nous laisser parler et aussi dire qu'un jour, il va y avoir une naissance, il va y avoir un avènement. Le Seigneur Jésus va revenir en personne dans ce monde. Il va venir nous chercher, il va venir nous prendre. Et c'est pour cela que nous avons cette grande espérance. Oui, quand on vit ces choses, quand cette vie de Dieu se développe en nous, tout change, mais en bien. C'est une grande joie. Aussi, cet après-midi, j'aimerais que personne ne passe à côté de cette grande joie. C'est une expérience si formidable que de connaître la vie de Dieu en nous. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas fait déjà la première rencontre, parce que peut-être le problème, c'est que toi-même, tu ne peux pas l'expérimenter parce que tu n'as pas rencontré Dieu encore. Et cette parole, tu l'entends, mais il te faut la recevoir au plus profond du cœur pour que tu puisses recevoir et que tu puisses accepter que Dieu veuille te faire du bien. Et que même si tu ne le mérites pas, comme on l'a entendu, même si tu ne le mérites pas, le Seigneur n'a pas d'autre désir que de te faire du bien, que de te faire expérimenter cette joie, cette paix. Et il ne tient qu'à toi que de recevoir cette parole, pas dans la tête, mais dans ton cœur. Et tu verras. Reçois cette parole, vis ces choses, parce que cette expérience, le Seigneur t'appelle à la vivre, eh bien, tu verras combien ta vie prendra une dimension que tu n'avais même pas imaginée jusqu'à présent. On pourrait se recueillir quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que oui, pour te voir, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour te voir partout. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous laisses des traces de ton action, tu nous laisses partout voir des choses qui nous permettent de discerner que tu existes. Et je te prie, Seigneur, pour que si quelqu'un parmi nous cet après-midi n'a pas fait cette rencontre avec toi, n'a pas fait cette expérience avec toi, n'a pas fait la paix avec toi, je te demande ta grâce, Seigneur, pour que cette parole résonne dans le cœur, que ton esprit puisse se rappeler au cœur et qu'il puisse faire du bien, Seigneur, en suscitant justement ce désir de se réconcilier avec toi. Oui, Seigneur, tu es mort sur la croix pour nous. Tu as donné ta vie parce que tu voulais que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et je te prie vraiment pour que parmi nous cet après-midi, personne ne reparte de ce lieu sans avoir fait la paix avec toi. Merci, Seigneur, pour ce beau cadeau que tu nous fais, que d'expérimenter ta vie en nous. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen.